Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
De voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. En France, selon l'INSEE, un enfant sur dix vit dans une famille dite recomposée, autrement dit dans une famille où des enfants sont nés de la précédente union, du précédent lit comme on disait jadis. Alors que l'on soit belle-mère, beau-père, demi-frère ou quasi-sœur, comment trouver sa place dans ces nouvelles tribus? Pas facile de partager son territoire avec l'ado de l'un ou le petit dernier de l'autre, tout en restant un couple. Face au vide juridique du statut de beau-parent, il faut s'y composer avec les ex-conjoints, surtout quand les règles ne sont pas forcément les mêmes chez papa et chez maman. Bref, qu'est-ce que la coparentalité? Et est-on obligé de tous aimer à égalité dans les familles recomposées? On en cause avec vous qui nous écoutez et bien sûr nos invités. Bonjour Gloria Repon.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, autrice de ce livre « Famille recomposée, du conte de fées à la réalité ». C'est aux éditions Favre. C'est un livre à la fois de témoignages et de conseils. On va voir avec vous qu'il n'y a pas bien sûr une famille recomposée, mais différents modèles. Juste une petite question comme ça, rapide. Famille recomposée, vous l'aimez, vous, ce terme un peu techno, désincarné, pas franchement glamour?
Alors, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas, celui-ci est compris de tous. Donc, il a au moins cet avantage-là.
Voilà, et on verra, même s'il y a différents modes opératoires, entre guillemets.
Exactement.
Avec vous, dans le studio, Marie-Luce Jovan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice du club des marâtres à Paris, on va en parler, pour libérer la parole des belles-mères qui peuvent se sentir parfois invisibilisées ou stigmatisées, ce n'est pas nouveau, on en recausera. Et vous nous raconterez votre propre histoire, vous vous dites marâtre récidiviste.
Absolument.
J'aime beaucoup. Et vous aimez ce mot, franchement pourtant péjoratif, marâtre.
Il n'y en a pas d'autre dans notre langue.
Belle-mère.
Mais non, belle-mère a une ambiguïté. La belle-mère est aussi la mère du conjoint.
Ah.
Et donc c'est la raison pour laquelle, quand j'ai créé l'association, j'ai souhaité intégrer le mot marâtre. La première raison était vraiment une question de vocabulaire, pour bien comprendre qui on était. Et la deuxième était que l'image est tellement négative qu'on pouvait faire que mieux.
C'est clair. On va en parler d'ailleurs forcément dans les contes de fées notamment. Et puis bien sûr, en fin d'émission, comme d'habitude, vous retrouverez la chronique « Écoutez le monde » de notre exploratrice de son, Monica Santini. C'est parti.
RFI, 8 milliards de voisins, j'écoute ça.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble. On demeurera ensemble.
Et pour commencer, parlons justement de cette fameuse belle-mère, parce que vous allez le voir, il y a pas mal de messages d'auditrices d'ailleurs à ce sujet, la fameuse marâtre. Pourquoi autant de haine? Et ce n'est franchement pas nouveau. Alors justement, Gloria répond dans votre livre. D'ailleurs, vous commencez par les fameux contes de Cendrillon. La faute aux contes de fées, l'image comme ça dans l'inconscient collectif de la belle-mère, la sorcière.
Eh bien, c'est ça. Les belles-mères, malheureusement, ce sont celles qui vont prendre le plus cher dans la famille recomposée. Les beaux-pères ont aussi certains stigmates, mais quand même nettement moins que les belles-mères. Ce qui est vraiment très intéressant à savoir par rapport à ces contes de fées, c'est que initialement dans les histoires qui ont été récoltées par les frères Grimm et qui ont donné lieu à Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Eh bien, dans les histoires initiales, ce ne sont pas des belles-mères. Ce sont des mères qui tentent de se débarrasser des enfants. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'infanticide est quelque chose qui existe. On n'a pas de moyens de contraception, il y a beaucoup de pauvreté, de famine, et qui pousse finalement certaines familles à se débarrasser, excusez-moi.
Donc c'est des mauvaises mères alors. C'est des mauvaises mères alors.
Mais justement, une mère, l'instinct maternel est censé être tellement fort que peu importe si c'est le huitième enfant et qu'on n'a pas de quoi nourrir les sept précédents, on le garde cet enfant-là. Et c'est bien pour ça que vouloir se débarrasser entre guillemets d'un enfant quand on est une mère, c'est un comportement tellement anti-maternel qu'on ne peut pas l'associer à la mère biologique. Et donc, dans ces contes, les mères biologiques ont été remplacées par les belles-mères. C'est un comportement qui est, entre guillemets, un peu plus acceptable venant de la part de quelqu'un qui n'a pas ce lien biologique avec l'enfant.
Et ça se trimballe encore dans l'imaginaire collectif. Je vous vois abonder.
Absolument.
Donc,
absolument.
La marâtre. Et en même temps, vous, justement, ça fait une vingtaine d'années que vous animez
alors,
ce club.
Le club a été monté en 2003, donc un peu plus d'une vingtaine d'années. Oui. Et moi, je suis tombée dans la marâtralité il y a un peu plus de 30... un peu plus de 35 ans.
La marâtralité. Bah, oui. Parce que pour raconter un petit peu aussi votre histoire à vous, c'est intéressant, hein, comme ça, la psy, à mon avis, va s'y retrouver avec les autres témoignages.
Vous bon, lisez... alors, on ne fera pas une séance aujourd'hui, si vous permettez.
Mais comme vous lisez, marâtre récidiviste, oui, vous, ça commence très tôt, non ?
Alors, non, pas très tôt. J'avais 30 ans quand j'ai rencontré celui qui est devenu le père de mes enfants, qui était un jeune papa divorcé, qui avait deux enfants, qui avaient 8 ans et 5 ans et demi. Moi, j'étais une femme célibataire de 30 ans, heureuse de vivre. On tombe amoureux tous les deux.
Il a des enfants, lui. Hein.
Il a des enfants, il a deux enfants. Moi, j'en avais pas. J'étais célibataire, j'avais pas d'enfants.
Donc, même pas peur, là.
Non, même pas peur. Voilà. Il y a des moments où il faudrait quand même se refréner un petit peu. Mais même pas peur, non, je me dis chouette. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Finalement, il y en a déjà deux de fait. Ça peut être un apport supplémentaire. Enfin, vraiment dans un truc.
Deux de fait.
Ouais, j'y crois.
Bon, ils ont quel âge? Ils vivent avec vous ou chez leur mère?
Non. Bah, allez, à l'époque, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Hein, la résidence alternée, on n'en parlait même pas. Hein, elle est beaucoup plus récente, la résidence alternée.
Donc, garde chez la maman.
Voilà, garde chez la maman. Et en plus, non. Bon, Thierry, puisqu'il s'appelait le Thierry, avait en plus le mercredi. Bref, j'ai rencontré ses enfants et c'est vrai que dans cette histoire-là, je n'étais pas la méchante qui avait brisé le ménage, mais c'était mon mari qui était parti avec un autre monsieur. Donc, c'est vrai que...
C'est pas la briseuse de couple, parce que ça, c'est aussi une image, un stigmate.
Évidemment, c'est vrai que la manière dont le couple précédent s'est séparé va avoir un impact important sur la recomposition et les différentes relations au sein de la famille recomposée.
Il y a aussi, l'émotionnel de la mère qui, même si la séparation s'est passée depuis longtemps, a parfois du mal à supporter l'idée qu'il y ait une autre femme et qu'il soit quelqu'un de constant dans la vie de son ex-mari. Mais ça, c'est un autre sujet.
Donc là, ça se passe plutôt bien, sachant que vous allez avoir des enfants avec votre mari.
Voilà. Et donc, notre histoire se continue. On a des enfants. Une petite chose qu'on avait faite, qui nous souhaitait importante, que nous pensions importante, c'est qu'un jour, mon beau-fils arrive à la maison. Et il se trouve que leur maman était enceinte en même temps que moi. Hein, donc, double recomposition pour eux. Et mon beau-fils arrive avec la morgue de ses 6 ans, il me dit « De toute façon, ce sera mon demi-frère ou ma demi-sœur » sur ce ton.
Oui, mais attendez, pardon, on va commenter en même temps, mais c'est vrai que la notion de demi-frère, demi-sœur, quasi-sœur, quasi-frère, c'est compliqué aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, le vocable famille recomposée, pour les gamins, c'est pas non plus simple aussi de se dire à quel moment t'es mon demi-frère, demi-sœur, il n'y a pas de règles là encore.
Il n'y a pas vraiment de règles, et puis même dans la littérature, on n'a pas vraiment des résultats très, très clairs, hein. C'est souvent assez contrasté, on ne sait pas s'il y a vraiment plus de proximité avec les demi-frères plutôt qu'avec les quasi, on sait en tout cas qu'il y a moins de rivalité avec les quasi-frères et sœurs, c'est-à-dire là où il n'y a pas de lien.
C'est quoi la différence entre demi et quasi ?
Un demi-frère ou une demi-sœur, il y a un lien biologique. Au moins un des deux parents en commun. Un quasi-frère et sœur serait un enfant issu d'une précédente union de la belle-mère avec lequel finalement les enfants n'ont absolument aucun lien biologique. Alors ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il y a moins de rivalité, mais aussi simplement parce qu'il y a beaucoup moins de liens.
Et d'enjeux.
Et finalement, ils se calculent pas vraiment, ce qui fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de rivalité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de liens. Mmh. Alors qu'avec les demi-frères et sœurs, ou même dans les fratries biologiques, il y a beaucoup plus cette rivalité, il y a beaucoup plus d'enjeux pour l'amour, l'attention des parents. Et donc, un demi-frère ou une demi-sœur qui arrive, effectivement, ça doit être assez tendu.
Et vraiment, il me dit ça, mais c'était la morgue avec laquelle il me le disait.
Il a 6 ans en même temps.
Oui, il a 6 ans. Et puis bon, je pense qu'il y avait aussi, bref, quelques influences, on va dire, sur la légalité entre le demi et le demi. Bref, et je le regarde, je lui dis, écoute, oui, du point de vue de la sociologie, ce sera un demi, on est d'accord. Maintenant, je vais te dire un truc, hein, tu l'aimeras ou tu ne l'aimeras pas. Et ça, ce sera entier. Donc, tu verras ce que tu feras, vous verrez comment vous vous bâtirez.
Et ça, c'est bien parce que c'est déculpabilisant. Si on peut se dire aussi qu'on n'est pas obligé de s'aimer, en fait, ou en tout cas de s'aimer.
Le respect est un minimum.
Le respect. C'est un mythe extrêmement fort dans les familles recomposées, c'est cette question de l'amour. Oui. Qui doit aimer qui ? J'ai énormément de belles-mères qui m'ont posé cette question. Est-ce que je dois aimer mes beaux-enfants ? Je l'ai écrit en lettres capitales dans le livre.
Ce n'est pas obligatoire.
Non. Non. L'amour ne se commande pas. Au contraire, ça ne ferait qu'ajouter une culpabilité supplémentaire sur l'épaule des belles-mères que de dire, mais cet enfant-là, je dois l'aimer. Il doit y avoir du respect mutuel, hein, du beau-parent envers l'enfant et inversement. Et j'ai envie de dire même de manière plus large entre tous les membres de la famille recomposée. On peut avoir du respect, de l'affection Mais l'amour n'est pas obligatoire.
Et Marie-Luce Jovan,
j'arrête pas de hocher de la tête.
Sans rentrer trop dans, mais c'est intéressant d'écouter votre témoignage. Cette histoire donc dure une dizaine
Alors, juste un petit détail. Oui. Pour augmenter en fait l'envie qu'ils soient frères et sœurs, parce que pour nous c'était important, le casil 2000 machin. On a demandé donc à mes beaux enfants et donc aux enfants de mon ex-mari de choisir les deuxième et troisième prénoms des enfants. Donc nous on a choisi le premier et alors je dis mes enfants pour les distinguer portent en deuxième, troisième et même quatrième puisqu'entre temps comme on en avait une elle a choisi aussi les prénoms choisis par les aînés et c'était une manière de leur dire voilà il y a un lien entre vous, vous en ferez ce que vous voudrez de toute façon. On peut pas juger
c'est
ça.
C'est ça. Hein. Alors après, vous rencontrez... Donc il y a une séparation.
Hein. Oui, oui, on se sépare au bout de 14 ans. Et ça a été très, très difficile de se séparer des enfants.
Ah.
Ouais. Alors, bien sûr, de la personne avec qui j'avais vécu pendant 14 ans. Mais de se séparer des enfants, de se dire, voilà.
Mais continuatoire ou pas d'ailleurs ?
Alors, mes enfants sont frères et sœurs avec leurs aînés. Voilà, pour eux, ils sont toujours en lien, ils sont... Voilà. Moi, j'ai perdu tout contact avec l'un d'eux. Pourtant, qui sait que j'existe hein, voilà, il y a des petits... voilà. Et le deuxième, on se téléphone de temps en temps. J'ai eu un jour une belle surprise. Il est venu à la maison avec son propre fils. Et il y avait mon nouveau mari. Donc voilà, c'était une espèce de continuité qui était très jolie. Il habite en province, donc évidemment, les occasions de se voir sont moins contraintes. Mais voilà. Et donc...
Vous rencontrez...
Alors, attendez, non, je passe 6 ans maman solo, quand même.
Ah, quand même. Oui. Vous faites quand même des pauses.
Ah oui, je fais des pauses. Oui, maman solo de 2 ados...
Oui, ça ne va pas très bien.
Pas le PC, voilà. C'est pas hyper facile. Et puis, je rencontre donc, celui qui est mon mari. Moi, je suis très mariage, hein, donc moi, je me marie à chaque fois.
Je divorce.
Non, commencez pas.
Gloria Repon n'est pas votre psy, mais elle peut peut-être rebondir quand même, parce qu'il y a quand même toujours la notion d'image idéalisée aussi, du couple. De la famille nucléaire.
Tout à fait, mais l'histoire du mariage n'est pas complètement anodine. C'est-à-dire qu'être en couple, c'est une chose. Être marié, il y a un lien légal. Et par rapport aux enfants, ça fait une sacrée différence.
Reconnaissance.
Légitimité. Oui, exactement. Et la littérature le montre hein, vraiment que au niveau des liens et aussi de la place que peut prendre le beau-parent, de se dire je ne suis plus le copain de ta maman, mais bien son mari, y a une différence. Et puis après, légalement aussi, par rapport au soutien qu'on apporte aux enfants, alors il n'y a pas de droit ou de devoir directement du beau-parent envers les enfants, mais le lien marital, par extension, amène des droits et des devoirs envers l'enfant, enfin plutôt de soutien du conjoint et par extension des enfants. Donc oui, il y a une vraie différence entre cohabiter et être en concubinage, par exemple, ou être remarié, effectivement.
Voilà. Votre deuxième mari, alors, il a 3 enfants, c'est ça?
Alors lui, il arrive avec 3 enfants dans le panier. Donc,
dans le panier, j'adore.
Oui. Les contes de fées, vous savez, où on voit son prince charmant
de
arriver.
De mères différentes, en plus, non?
De mères différentes, ouais. Oui, non, mais...
Vous aimez corser les scénarios,
c'est-à-dire que,
en fait,
bon, à partir du moment où je me suis lancée dans l'affaire, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Donc, de 2 mères différentes, les 2 aînés ayant l'âge des miens à peu près, donc grands ados, jeunes adultes, et un petit dernier qui, à l'époque, a 5 ans, et qui vit à l'étranger.
Ah.
Donc aujourd'hui, quand on me demande combien j'ai d'enfants, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre.
C'est vrai ?
Ah oui.
Et
oui.
Vous dites pas mes enfants et nos enfants.
C'est une, enfin, très difficile pour moi parce que il y a les enfants que j'ai mis au monde, évidemment. J'en ai 2. M'appartiennent-ils pour autant ? Bref, ça c'est un autre sujet. mais combien j'en ai élevé ?
Voilà. Ça, c'est une question, un ressenti que vous pouvez, dans votre cabinet ou dans les groupes de parole que vous animez, Gloria Repon, des témoignages, vous les avez ceux-là par rapport au fait combien j'ai d'enfants,
qui est-ce qu'on inclut dans la famille, qui fait partie de ma famille. Évidemment, c'est des questionnements qui arrivent très souvent, qui sont mes enfants, qui je suis pour eux. Et puis, il y a un élément extrêmement important hein, que je souligne dans votre témoignage, c'est que la famille recomposée, elle existe parce qu'il y a un couple. Si le couple se sépare, la famille recomposée disparaît. Mmh. Et vous pouvez passer 14 ans à élever, des enfants, les aimer comme les vôtres, et vous n'avez aucun droit à partir du moment où il y a une séparation. Mmh. Et ça, ça peut être extrêmement difficile à vivre pour les beaux-parents. On a souvent ces remarques de la part des parents dans les familles recomposées qui reprochent aux beaux-parents un manque d'investissement, d'engagement, d'implication dans la famille. Et puis quand on commence un petit peu à creuser, on va regarder aussi comment se passe la relation conjugale. Parce qu'il faut sentir sa relation de couple comme suffisamment stable et pérenne pour ensuite s'engager auprès de l'enfant. Si j'ai l'impression que mon couple va bas de l'aile et qu'on va se séparer la semaine prochaine, je ne vais pas investir la relation avec l'enfant parce qu'à partir du moment où on se sépare, je n'ai plus aucun droit avec cet enfant-là. Et c'est un petit peu tout le drame de ces familles recomposées. On leur demande de s'engager, de s'investir, mais tout peut voler en éclats en un instant.
Et ça, les gamins aussi peuvent le ressentir. Hein,
oui, ça peut. Alors, c'est des choses qu'ils peuvent ressentir, mais j'ajouterais quand même deux petites choses. La première, c'est qu'en effet, il serait idéal, avant de se lancer dans la vie commune, de pouvoir poser un cadre, de discuter de ce qu'on va faire, de discuter des éventuels... Oui, mais oui. Bon, alors, oui. Dans la réalité, c'est généralement un gros crush, c'est, ouais, on est tombé amoureux, on n'a pas réfléchi à tout ça.
On
l'amour
y va,
devait tout faire.
Voilà,
exactement.
Il y a un petit peu cette idée que ça va aller.
C'est ça.
Et
c'est
puis
ça.
Pour beaucoup de familles, tant mieux, ça se passe comme ça et ça marche. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments de complexité dans les familles recomposées sont beaucoup plus présentes que dans les familles dites de première union qu'il faut discuter.
Et on va parler de cette fameuse coparentalité encore un grand
mot. La coparentalité,
voilà. La co-quoi Eh bien, ne bougez pas, ça tombe bien, vous êtes un peu notre invité. On en parle dans quelques instants après le chanteur et guitariste français Danny Boumba. Et puis quoi encore sur RFI?
Et puis quoi encore avec mon cœur? Tu voudrais que je te le donne pour qu'ensuite tu l'abandonnes. Et puis quoi encore avec mon cœur?
Appuie sur mon cœur avec ton corps. J'aime entendre comme il résonne au cœur corps quand il frissonne. Appuie sur mon cœur avec ton corps. Épice le décor d'amour vainqueur. Mets du piment dans ma vie, mets du ciment dans mes envies. Épice le décor d'amour vainqueur.
Et puis quoi encore avec mon cœur. Et puis quoi encore avec mon cœur. Et puis quoi encore avec mon cœur. Tu voudrais que je le donne pour qu'on s'y dit la
Mananga yo, yo moto prometa kinga bolingo, bolingo ango eke iko apiei. Ni amana mote mananga yo, como nanga yo mate, como nanga bambate, bona lingi yo. Moto la kakyo kolinga ngai kolingwa ngoke iko apie nini amona motema na ngai yo kopona ngai umate kopona mabamba te pona lingi yo.
Et puis quoi encore?
encore.
Et puis quoi encore, Dani Boumba sur RFI. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Lumière de voisins et de voisines. On parle des familles recomposées. Comment trouver sa place dans ces nouvelles tribus, que l'on soit belle-mère, beau-père, demi-frère ou quasi-sœur. On en cause avec nos invités très bavardes, hein, même pendant les disques, là ça n'arrête pas. Gloria Repond, docteur en psychologie, autrice du livre Famille recomposée, du conte de fées à la réalité aux éditions Favre. Et Marie-Luce Jovan, fondatrice du club des Marâtres à Paris. Je vous propose d'écouter la note vocale que nous a laissée une voisine.
Bonjour, 8 milliards de voisins. Cette histoire de famille recomposée, là, vraiment, c'est un casse-tête chinois. Du fait qu'on se rencontre, on cohabite, chacun son comportement, son éducation. Je suis aussi issue d'une famille recomposée après la séparation de mes parents biologiques. Chacun doit y refaire sa vie, mais j'avoue que ça n'a pas été facile, hein. Déjà, le nom famille recomposée sonne très mal dans mes oreilles. Il y a des préférences et nos parents sont plus obligés de jouer les arbitres. Mais chez nous, en Afrique, je pense que lorsqu'on parle de famille recomposée, c'est les enfants de la femme qui sont mieux à l'aise. Et pas les enfants du mari. Je vous remercie.
Merci surtout à vous, Altiane de Brazzaville. La famille recomposée, un casse-tête chinois, nous dit-elle. Un mot qu'elle n'aime pas, famille recomposée. Et justement, Marie-Luce Jovan, vous voulez rebondir. Vous aussi, vous ne dites pas en famille recomposée. Vous dites quoi alors ?
Alors, moi, je dis en famille multiple.
Famille multiple.
Je préfère largement ce terme. Alors, sociologiquement, ce terme a eu une raison d'exister. Hein. Mmh. Le nom de la sociologue qui l'a mis au point, je m'échappe momentanément. Mais il n'y avait pas d'autres termes avant. Donc, ça a été vraiment le terme qui a été utilisé. À moi, il me donne l'impression de quelque chose de décomposé, oui, qu'on va recomposer avec des trucs un peu... Enfin, voilà, moi, ce que je vois, c'est des vers de terre, quoi, vous voyez.
Des vers de terre.
Ouais, de la terre. Attention, avec des vers de terre.
Pardon.
La terre avec des vers de terre.
Ah oui, c'est fort, quand même.
Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'est très, très pénible.
Gloria Repond, le famille recomposée. En anglais aussi, on dit comment enfin, on
alors, a... effectivement, famille recomposée, c'est peut-être pas un très très joli terme, mais au moins il a l'avantage d'être reconnu. Au moins, on sait de quoi on parle. Et puis, c'est vrai qu'en anglais, on va parler de step families. Et j'ai envie de dire, c'est pire encore en anglais, puisque le step, la particule step family, qu'on va aussi utiliser pour step mother, step father, etc. La particule step vient du mot estipt, qui veut dire endeuillé, parce que les premières familles recomposées sont issues du veuvage. Hein. Les premières familles recomposées, c'est le décès d'un des deux parents et puis les compositions de l'époque qui font qu'on va se recomposer rapidement parce que c'est le père qui est pourvoyeur financier, le breadwinner qui va ramener l'argent et puis la mère qui s'occupe des enfants. Et c'est vraiment cette répartition des rôles qui pousse les couples, enfin les veufs et veuves à se recomposer rapidement.
Et en même temps, ça reste encore aujourd'hui, famille recomposée, on part du deuil de l'histoire d'avant aussi. Hein,
oui, alors on reste dans un deuil.
Oui, ouais,
l'autre parent est toujours là, la plupart du temps. Hein, on a encore des familles recomposées où le parent, un des deux parents est décédé, mais c'est relativement rare. Mmh. Mais oui, il y a quand même différents deuils à faire dans la famille recomposée. Le deuil d'un couple, donc un deuil conjugal, le deuil d'une famille telle qu'on l'avait imaginée. Mmh. Moi, j'ai encore jamais rencontré de personne qui me disait « Moi, petite, je rêvais de vivre en famille recomposée. Hein, » Dans l'imaginaire collectif, la famille, c'est plutôt la famille de première union de manière générale et pas
éternelle,
forcément un peu éternelle et pas forcément la famille recomposée. Donc, il y a une forme de deuil effectivement à faire.
Notre auditrice tout à l'heure, Altiane disait, oui, voilà, nous, chez nous, en tout cas, c'est les enfants de la femme, quelque part, ce qu'elle voulait dire, sont un peu privilégiés. Voilà, la coparentalité, tout à l'heure, vous aviez, oula, c'est quoi ce gros mot quand j'ai annoncé, voilà. Établir des règles communes pour tous, enfants de l'autre, enfants de soi, pas évident, ça, non plus. Que la psy, le témoin, qui veut parler, Gloria Repond.
Alors, j'ai peut-être commencé par définir ce qu'est la coparentalité, parce que finalement, c'est un terme qui a plusieurs définitions. Donc moi, quand je parle de coparentalité, je fais référence à la capacité des adultes en charge de l'enfant de travailler ensemble, de se coordonner, de se soutenir l'un l'autre pour le bien de l'enfant. Hein, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui est au centre de cette notion de coparentalité. C'est comment on travaille ensemble pour lui fournir un cadre qui est stable, qui est sécure et qui est bon pour son développement. Ça, on a énormément d'études qui montrent à quel point c'est important d'avoir une coparentalité.
On va pas signer un contrat de coparentalité quand on se rend compte, non ?
Non, mais il va falloir en discuter. Parce que des difficultés dans la coparentalité, une coparentalité conflictuelle, va avoir des répercussions sur le bon développement de l'enfant. Et ce que les études nous montrent aussi, c'est que des difficultés dans la coparentalité vont avoir ce qu'on appelle un effet de débordement sur les autres relations, et notamment la relation de couple. Et donc, avoir une bonne coparentalité, en réalité, c'est tout bénéfice pour l'ensemble de la famille.
On sait que dans un couple, on peut s'engueuler à cause des enfants. Ça devient plus complexe aussi quand on est un couple recomposé. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Marie-Luce ou Yovan. Quand voilà, on va s'engueuler à cause du fils de l'autre qui, parfois, nous parle mal. Et voilà, c'est plus complexe.
Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Dans les deuils que vous avez évoqués, il y en a un que vous n'avez pas évoqué, qui est le fantasme que l'on a toutes de rencontrer notre prince et qu'il n'ait pas des enfants.
Et aussi,
il y a ce deuil-là.
Tout à fait.
Et il fait partie, en effet, du fantasme un peu... voilà.
Ça, c'est pas mal. Ça. Ou alors, mais il faut moderniser les contes.
On est bien d'accord.
Parce qu'il y avait déjà des enfants.
On est bien d'accord.
Ça fait moins rêver en même temps, pardon. Surtout si c'est des ados.
Alors oui, bon, ça... adultes sont aussi parfois pires que les adolescents.
C'est vrai.
Ça peut arriver. Et pour ce qui concerne la coparentalité, c'est pareil, je l'élargirais, non pas seulement mon couple recomposé, je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, mais aussi au parent qui est l'autre parent. Parce que la difficulté qu'il y a très souvent est liée complètement au fait que pour des raisons de... alors, on va parler de deuil, mais d'autres aussi, de toute puissance, de volonté de continuer à gérer, etc. Le parent qui est absent du couple va continuer à être présent et être dans l'incapacité lui-même d'être dans une coparentalité. C'est-à-dire, en effet...
En même temps. Souvent, quand des séparations sont mal passées, les rapports avec les ex ne sont pas forcément...
Alors, moi, ce que j'ai constaté au niveau du club et qui m'a beaucoup étonnée...
Le club des marâtres,
tout à fait, qui est un groupe de parole qui fonctionne depuis plus de 20 ans. Très souvent, les femmes qui venaient étaient des femmes qui avaient rencontré un homme qui était séparé depuis quelque temps déjà, qui n'était ni à l'origine de la rupture et qui rencontrait un homme qui était, a priori, dans une relation calme avec la mère des enfants. Et puis, le fait que cette femme soit dans la vie de cet homme et qu'il y ait un projet de vie commune... réactivait des angoisses, des inquiétudes, des volontés de fermeté sur les conditions de partage, sur les conditions de vacances, etc. Et une volonté, presque même parfois, de tout faire pour empêcher ce nouveau couple. C'est-à-dire des changements d'emploi du temps à la one again, des appels systématiques 3, 4, 5 fois par jour quand les enfants sont chez le papa. Enfin voilà, une espèce d'envahissement comme ça qui aussi rend complexe la coparentalité au sens très large.
C'est coparentalité très très plurielle.
Effectivement, il faut absolument le préciser, c'est que la coparentalité qui va prendre place entre le parent et le beau-parent ne se substitue absolument pas à la coparentalité entre les parents biologiques qui ont la garde de l'enfant et qui ont l'autorité parentale conjointe de l'enfant. Et donc, ce qui fait toute la complexité dans ces familles recomposées, c'est qu'on a plusieurs coparentalités. Oui. On peut avoir jusqu'à 3 coparentalités. On peut imaginer la coparentalité entre maman et beau-papa, entre maman et papa, et entre papa et belle-maman. Et dans l'idéal... tout ce petit monde se réunit et travaille ensemble. On parle, dans ce cas-là, de supra-coparentalité. C'est rarissime, ça m'est arrivé une ou deux fois de rencontrer ce type de configuration. Et quand ça marche, c'est fantastique pour les enfants. C'est absolument génial. Mais vraiment, il est important de garder à l'esprit que cette coparentalité entre le parent et le beau-parent ne se substitue pas à la coparentalité entre les parents biologiques. Et toute la difficulté va être justement de faire cohabiter ces différentes coparentalités. Et moi, j'engage toujours les familles que je rencontre à parler non pas des règles de papa ou de maman ou de beau-papa ou de maman, mais du foyer. Parce que l'enfant arrive très bien à faire la séparation des règles liées aux lieux. Comme un enfant comprend très bien qu'il y a des règles à l'école qui ne sont pas les mêmes qu'à la maison, par exemple, l'enfant comprendra très bien qu'il y a des
règles qui ne sont pas forcément les mêmes chez maman.
Exactement, que les règles ne sont pas forcément les mêmes chez papa et belle-maman que chez maman et beau-papa. Et donc là, cette coparentalité, c'est la coparentalité au sein du foyer. Parce que ce beau-parent, belle-mère ou beau-père, il est présent au sein de ce foyer. Il a aussi son mot à dire, parce que j'ai aussi beaucoup eu des beaux-parents qui me disaient « Mais la coparentalité, pourquoi vous me regardez avec la coparentalité ? Moi, ça ne me concerne pas, cette histoire-là. C'est pas mon enfant, ça ne me regarde pas. » En fait, oui, parce que tout le monde vit sous le même toit et qu'à un moment donné, il faut se mettre un minimum d'accord sur... Comment ça fonctionne au sein du foyer ?
Comment ça fonctionne au sein du foyer ? Ben on écoute, tiens, la note vocale d'une autre voisine.
Bonjour 8 milliards de voisins, c'est Avoua de Dakar. J'ai grandi dans une famille recomposée. À l'âge de 12 ans, ma belle-mère est arrivée. Elle avait déjà un enfant. Ce qui a amené pas mal de perturbations parce que forcément, elle avantageait son enfant, sa fille. Après quoi, elle a eu d'autres enfants avec mon père. Ces derniers n'étaient pas traités comme nous. Ils étaient tout le temps avantagés. C'était les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. Quand on sortait, c'était compliqué parce qu'on nous faisait comprendre que nous, on était les enfants d'une défunte. Et... c'était pas très très agréable d'être toujours mis sur le côté. Et ensuite, on nous a fait comprendre que si on n'était pas là, ses enfants hériteraient plus quand notre père ne serait plus là. Donc aujourd'hui, moi, rendue à l'âge adulte, j'ai pas trop aimé mon expérience enfant. Je pense que ça pouvait être compréhensible. Et du coup, j'ai voulu reproduire l'opposé. Donc avec ma famille recomposée, parce que j'ai moi-même divorcé, je me suis remariée. J'ai accepté, justement, pour aller à contresens avec mon mari, j'élève mes beaux-enfants comme mes enfants. Donc ça en étonne plus d'un. Mais je suis très, très fière du rendu. Ils me le rendent bien. D'ailleurs, je connais même mieux mes beaux-enfants que mon propre mari. D'ailleurs, je suis plus proche d'eux que lui. Je sais aussi, par contre, que je n'attends rien d'eux. Je le fais pour moi, pour l'équilibre et pour les enfants qu'on a en commun avec mon nouveau conjoint, pour leur offrir une stabilité lorsqu'ils grandiront et qu'ils n'aient pas le même vécu, la même expérience que moi. Si mes beaux-enfants me le rendent plus tard, alhamdoulillah, s'ils ne le font pas, je l'ai fait pour moi et pour mes enfants utérins. Voilà, bonne journée à tous. Bisous ensoleillés de Dakar.
Merci beaucoup, Awa. Et merci pour le petit bisou ensoleillé de Dakar. Beau témoignage, hein, une belle-mère qui a donc.
Très jolie.
Voilà, qui élève ses deux beaux enfants, comme ses quatre enfants. Au total, ça fait quand même six. Elle dit avoir reproduit l'opposé de sa propre histoire. Qu'est-ce que ça vous suggère ? Et est-ce que lorsqu'on est soi-même enfant d'une famille recomposée, je ne sais pas s'il y a des chiffres ou pas, est-ce qu'à terme, on va aussi reproduire une famille recomposée ou pas ? Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, Gloria répond.
Alors, à ma connaissance, pas forcément. On n'est pas forcément beaucoup plus enclin au divorce parce que nos parents ont divorcé. Éventuellement, en ayant vécu cette expérience, on sait aussi à quoi s'attendre et que dans une relation de couple qui nous ne satisferait pas, on aurait peut-être plus la facilité de se séparer parce qu'on connaît finalement la séparation.
Mais les familles recomposées, elles tiennent plus longtemps. On dit souvent qu'elles se séparent plus rapidement.
Alors, il y a beaucoup plus de séparations dans les familles recomposées que dans les familles de première union. Pour différentes raisons, il peut y avoir effectivement des conflits coparentaux, conjugaux entre le parent et le beau-parent. L'enfant est souvent cité comme une source de tension, mais il ne faut pas penser que le problème est l'enfant. Et ça, c'est absolument important de le souligner. Ce sont plutôt des divergences et une incapacité de se mettre d'accord au niveau des adultes qui va amener à la séparation. Ce n'est pas la faute des enfants,
je vous remercie de le dire, parce que c'est une question qu'on m'a posée quand je me suis séparée du père des enfants. On m'a dit c'est à cause des enfants. Et je regardais les gens en me disant mais non. Enfin, mais quelle horreur. C'est à cause des adultes qu'on n'a pas su continuer d'avancer dans leur relation, mais les enfants n'y sont pour rien. Laissez-les où ils sont. Vraiment, c'est terrible d'entendre ça. Moi, j'avoue que... Merci de le dire.
Ça peut venir de divergences liées, par exemple, à l'éducation de l'enfant, mais c'est vraiment plutôt l'incapacité, l'impossibilité des parents, des adultes à travailler ensemble, à se mettre d'accord sur comment on fait par rapport aux enfants, qui va amener la séparation, ce ne sont pas les enfants.
Ça, c'est bien.
Absolument
c'est
pas.
Bien noté,
ouais. Et puis, ce que j'ai constaté aussi dans ma pratique clinique, c'est que les parents qui ont vécu une première séparation sont aussi beaucoup plus enclins à se séparer et à sortir d'une situation familiale dans laquelle ils ne sont pas bien. Énormément de mamans que j'ai rencontrées m'ont dit « j'aurais dû me séparer beaucoup plus tôt ». De leur première union. Hein. Mais voilà, je ne travaillais pas à 100%, j'avais peu de revenus, j'allais déraciner mes enfants, on avait une belle maison, moi je pouvais à peine payer un petit appartement, un studio. Et voilà, une situation économique fragile. Et j'aurais dû me séparer tellement plus tôt, mais je ne me sentais pas dans la capacité de le faire. Maintenant, je l'ai fait, j'ai les ressources, j'ai les compétences, je sais que je peux y arriver. Et que si je me retrouve dans une situation de couple qui ne me convient pas, je pourrais aussi partir beaucoup plus facilement.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ça a aussi un bout d'explication dans ces séparations peut-être plus importantes dans les familles recomposées.
Absence du statut, on le disait tout à l'heure, de beaux-parents. Vous le disiez aussi, Marie-Luce Jovan, vous qui représentez les marâtres. Voilà, on a beaucoup de responsabilités et pas tant de droits. Est-ce que, par exemple, vous, dans vos différentes histoires, voilà, est-ce qu'il y a eu de reproches ou pas de la part des ex-épouses, des ex-femmes, en disant, bah, c'est pas à elles la belle-mère que d'amener mon fils ou ma fille à l'école, chez le médecin, c'est des questions qui se posent au quotidien ou pas?
Alors, je vais répondre de deux manières.
Allez-y.
La première étant, d'un point de vue légal, elle a entièrement raison. On n'existe pas.
C'est ça.
Donc, elle a entièrement raison. Pour certaines... Alors, je dis mère par rapport à marâtre. Hein, pour certaines mères, on est dans une folie de possession et de... Et tous les sujets seront bons pour... En tout cas, du point de vue légal, non, nous n'existons pas. Nous ne sommes que... Alors, les belles-mères et les beaux-pères, nous ne sommes que des irresponsables à qui il faut faire un petit mot pour aller chercher les enfants à l'école.
Des irresponsables?
Ah bah oui, puisqu'il faut, pour qu'on puisse aller chercher les enfants à l'école, que papa nous ait fait un petit mot pour dire qu'on pouvait aller le chercher. D'un point de vue purement légal, j'entends, hein, on ne peut... Alors, on est dans l'obligation, si besoin est, d'emmener un enfant chez le médecin en cas d'urgence, comme n'importe qui d'autre, hein, mais le médecin n'est pas obligé de nous recevoir et on ne peut pas ressortir avec l'enfant.
C'est incroyable,
c'est des délires. Qu'on
soit encore là, tout à fait. Du juridique.
Oui.
Hein.
Oui. Et ouais. Ça fait partie des choses complètement délirantes. Alors, il est heureux de se protéger, bien sûr. Je comprends bien. On sait malheureusement que dans nos sociétés, on peut avoir tous les types de délires, et tant mieux de se protéger. Mais à un moment, il faut aussi rendre compte de la réalité. On parlait tout à l'heure de 10%, je pense que les chiffres sont supérieurs. L'INSEE a changé sa méthode de calcul il y a 2 ans à peu près. Donc on est resté à 10%, mais je pense que...
Ça fait quelques années, hein, en plus, c'est
exactement.
Ces
le chiffre avait augmenté de manière...
D'enfants qui vivent dans les familles recomposées.
Oui, d'enfants qui vivent en famille recomposée. Le chiffre avait été exponentiel jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, quand ils ont changé la méthode de calcul. Et donc maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on est à la même hauteur. Bon, je pense que c'est pas très réaliste, en fait. Voilà. Et je pense qu'il est temps que notre société mûrisse un peu. En effet, on est dans une société dans laquelle, qu'on le veuille ou non, on risque de passer par des moments célibataires, des parents en couple, primo, j'allais dire accédant, non pas accédant, mais
primo-accédant, j'aime beaucoup.
Primo-couple, et puis des moments de parents solo, et puis des moments où on recomposera. Et je trouve que c'est vraiment navrant que personne ne s'en préoccupe.
Et c'est l'objet de votre livre aussi, hein, Glorie et Repond. Vous dites qu'il faut en finir avec la mauvaise image des familles recomposées, qui seraient des familles à problème. Voilà, le temps d'en arrêter avec les archétypes.
Exactement, hein, on a cette idée qu'un enfant qui grandit dans une famille recomposée, il y a cette institution incomplète, il grandit pas dans un foyer avec 2 parents biologiques aimants, ce sont des enfants à problème qui vont montrer des difficultés. Les recherches, les études aujourd'hui nous montrent que c'est faux. Oui, des enfants dans un foyer recomposé et qui ont vécu la séparation, le divorce des parents vont montrer quelques difficultés, mais ce n'est pas dû à la recomposition en tant que telle. C'est dû aux différentes transitions, parce que les transitions pour l'enfant sont déstabilisantes. Et de passer du foyer traditionnel à souvent une période de vie monoparentale, puis une recomposition, eh bien c'est plusieurs transitions qui peuvent venir déstabiliser l'enfant. Ce n'est pas la recomposition en tant que telle. Et si on regarde finalement sur le long terme, si on compare des enfants qui vivent dans des foyers recomposés et des enfants qui vivent dans des foyers dits traditionnels, eh bien finalement les différences, elles sont minimes.
Je vous propose d'écouter une dernière note vocale que nous a laissée une voisine très inspirée aussi par le sujet, vous allez le voir.
Bonjour voisins et voisines, je suis Claudia depuis le Cameroun. Je viens d'une famille recomposée de 5 enfants issus de mon père et 10 enfants issus encore de ma maman et de mon papa. Nous avons vécu dans cette famille dans l'harmonie grâce aux astuces de pardon, fraternité et d'amour instauré. Les moments agréables ont été ceux lorsque nous partageons le repas ensemble. Les astuces qui ont été homologuées dans la famille par les parents pour que le vivre ensemble y soit entre nous ont été des astuces très simples. Pardon, résilience, charité et beaucoup d'amour entre nous. Il fallait savoir que l'un ou l'autre, chaque camp, a quelque chose de nouveau à apporter dans la fratrie et savoir se pardonner. Les souvenirs très agréables que j'ai, ce sont les souvenirs d'amour, surtout au moment du travail. Lorsqu'on travaillait ensemble ou alors on partageait un repas ensemble, c'était beau de voir comment on discutait les morceaux de viande dans le plateau, là, parce qu'on mettait les filles à part, les garçons à part. Merci.
Ben merci surtout à vous, Claudia de Yaoundé. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Voilà un joli témoignage solaire et positif. L'amour, le pardon, la résilience pour vivre tous ensemble. Marie-Luce Jovan, je vous voyais l'écouter, notre auditrice. Et vous avez des yeux,
oui,
des brillants dans les yeux. Là.
Pour moi, je dirais que la famille recomposée, c'est pas un moins, c'est un plus. C'est plus de partage, c'est plus d'expérience, c'est une vision du monde qui peut être un peu différente quand on est beaux-parents, on vient pas du même endroit, on n'a pas... Et ça apporte plus que ça ne dessert. Et moi, j'aimerais que les choses soient vécues comme ça. Encore une fois, on parlait du fait qu'il n'y avait pas d'obligation d'amour. En tout cas, cette obligation de respect, pour moi, elle passe aussi par là. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'es ma belle-mère ou mon beau-père que t'es méchant et paré de toutes les tares de la terre. C'est un être humain, on va se rencontrer en tant qu'être humain et on verra comment on avance ensemble.
Pour terminer, un dernier conseil à nos auditrices ou nos auditeurs qui nous écoutent, qui ont été dans des familles recomposées, qu'ils y vivent ou pas, qu'ils soient enfants, beaux-parents ou parents, quels seraient vos conseils, Gloria répond.
Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vraiment aussi un message que je transmets, que je tiens vraiment à transmettre à nos auditeurs, auditrices et que je transmets aussi dans ce livre, c'est de ne pas oublier que le beau-parent peut être une ressource supplémentaire pour l'enfant qui va pouvoir aller confier quelque chose à beau-papa ou à belle-maman qu'il n'oserait pas confier à papa ou à maman. Et là, je parlais des beaux-parents, mais il y a aussi toute la fratrie, comme notre auditrice venait de l'évoquer. Et au sein de la fratrie, on a aussi vraiment ces liens très forts qui peuvent être des ressources importantes.
Des ressources que du plus. Un dernier petit mot, très rapide.
Oui, juste dernier petit mot, parce que moi, ça fait bientôt 30 ans, plus de 30 ans que je suis dans ma carrière.
Carrière de marâtre.
Ce qui me désespère un petit peu, et je l'avoue, c'est que rien n'a bougé.
Eh ben,
voilà. Peut-être qu'avec... C'était ce que je voulais dire. Merci pour votre livre.
Merci pour vos mots. Peut-être que ça va faire bouger un petit peu dans les têtes. Hein
non,
voilà.
Dans
votre carrière de mal, vous n'avez pas l'air totalement convaincu. Le Club des marâtres à Paris avec Marie-Luce Jovan, Gloria Repond, votre livre Famille recomposée du conte de fées, la réalité aux éditions Favre. En tout cas, c'est une belle rencontre entre vous deux. Voilà, très positive, il y en a besoin. Merci.
Merci.
À suivre dans quelques instants la chronique Écoutez le monde de Monica Fantini. C'est juste après le Nigérian CK avec In My Bed sur RFI.
Hate to see you go, love to see you come. So many options, but I'm the chosen one. Ice on my neck, I'm the frozen one. Girl, love me, so you love me. You are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie? Number one, you're my number one champion, yeah. I need you in my bed, bed, bed. Need you in my bed, bed.
you out my head. Hey, you didn't turn me on. You didn't turn me on. Waiting God to give you, you got to show off, make it for no loss. I go be a downfall driver, drive you crazy, drive you crazy. Girl, I know what you like. Let's not put off the lights so I can see you clearly. Mwah, baby, give it to me. Oh, you are very fine. I cannot deny, but is this really love or is this a lie?
C'était CK avec In My Bed, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Et tout de suite, comme d'habitude, c'est l'heure de rentrer dans l'univers sonore de Monica Fantini.
Écoutez le monde.
Hebade Aduna.
Écoutez.
Shoma Sedoye Johanro Mishinabi.
Le monde.
Qui sont les autres?
L'art de Wehrl Gleister.
Écoutez le monde.
Dans ma maison sonore, la vie siffle, crie et donne toujours de la voix. Aujourd'hui, c'est encore de la voix dont je vais vous parler. La voix humaine est la vibration d'une gorge de chair. Elle ne fait pas que parler. Elle s'exprime sans parole. Elle naît du corps. Touche le corps. Elle éclate de rire. Hein? Elle éclate en sanglots. Hein? Elle bâille, ronfle, gémit. Tous. Elle fait aussi n'importe quoi.
Oh.
Elle... Bon, quand elle veut, elle siffle. Eh oh! La voix est intouchable. Pourtant, elle touche. À voix basse, elle parle tout bas, se frotte au corps d'un autre. À voix haute, elle s'élève, porte des coups, vole un éclat. Puissante, fluette, grêle, jeune, vieille, faible, forte, gutturale, nasillarde, étranglée. Elle pleure, frôle, parle, frotte, froisse.
Ça va.
Ça va.
Ma voix se voit. Elle parle à travers moi.
Écoutez le monde de notre chercheuse de son Monica Fantini. Écoutez bien sûr sur notre appli Pure Radio. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Thibaut Mata. Lundi, vous retrouverez bien sûr Emmanuel Bastide avec le chef Anto pour une émission cuisine sur la mode anti-gaspi de la fermentation. D'ailleurs, on attend vos techniques et vos petits trucs à vous pour fermenter vos aliments sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. À suivre dans quelques instants les infos sur RFI.